Et à 18h, c'est l'heure du journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Agnès Buzyn devant la commission d'enquête parlementaire sur la crise sanitaire. L'ancienne ministre de la Santé tente d'expliquer les mesures prises par la France cet hiver pour affronter le nouveau coronavirus. Une audition suivie par Tara Schlegel que nous retrouverons dans quelques instants. Airbus s'apprête à supprimer 15 000 emplois, dont 5 000 en France. La direction du géant aéronautique présente en ce moment son plan de restructuration au syndicat. Fessenheim, c'est fini. La centrale nucléaire alsacienne a été débranchée du réseau EDF hier soir. Une mesure dénoncée à droite comme à gauche, où certains évoquent un véritable gâchis industriel. C'est une parole très attendue pour comprendre comment le gouvernement a géré la crise sanitaire. Depuis une heure environ, Agnès Buzyn s'exprime devant la commission d'enquête de l'Assemblée. L'ancienne ministre de la Santé avait démissionné le 16 février pour s'engager dans la bataille de la mairie de Paris. Elle n'a pas eu à gérer le confinement, mais c'est elle qui, fin janvier, avait assuré que la France était extrêmement bien préparée pour affronter le nouveau coronavirus apparu en Chine. On écoute Agnès Buzyn tout à l'heure à l'Assemblée.
Ma conférence de presse du 21 janvier, je prends la décision avant même la confirmation officielle de l'OMS qu'il existe une transmission interhumaine. Je précise que ça va être évolutif. Si je prends cette décision, c'est parce que j'imagine bien que ça va être évolutif et qu'il va falloir raconter étape par étape ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Je pense être la seule ministre de la Santé européenne à avoir pris la décision de faire une conférence de presse aussitôt. À cette date-là, il n'y a pas d'alerte de l'OMS, il n'y a pas d'alerte spécifique d'urgence de santé publique internationale.
Agnès Buzyn, tout à l'heure devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous suivez cette audition d'Agnès Buzyn devant les députés. Que faut-il retenir des premières déclarations de l'ancienne ministre de la Santé ?
Eh bien, je viens de l'entendre, hein, même si elle a eu une voix assez blanche en début d'audition, Agnès Buzyn revient de façon très méthodique sur tout son parcours depuis qu'elle est arrivée au ministère et depuis qu'elle l'a quitté. C'était donc juste au tout début de la crise sanitaire. Dès le 21 janvier, dit-elle, elle a été la première ministre de la Santé qui a organisé une conférence de presse pour dire à quel point cette crise pouvait devenir dangereuse. C'était un jour avant que l'OMS ne parle de transmission interhumaine. Elle dit même qu'elle a eu une première révélation, si on ose dire, le 25 décembre, lorsqu'elle a vu un tweet qui a parlé d'une pneumonie inconnue en Chine. Elle estime donc avoir été tout le temps dans l'anticipation. Elle revient aussi, bien entendu, sur la gestion des masques, qui est le principal sujet sur lequel souhaite l'entendre à la fois Éric Ciotti et la présidente de la commission, Madame Bourguignon. Tous deux reviennent plusieurs fois sur cette question et Madame Buzyn explique que certes, en 2018, Santé publique France a recommandé à la Direction générale de la Santé de reconstituer des stocks de masques. Mais elle assure ne jamais avoir eu connaissance de ce courrier en personne. Elle renouvelle, cela dit, sa confiance au directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qu'elle a choisi, dit-il, pour sa propre connaissance des crises sanitaires. Il avait déjà géré la crise d'Ebola, il avait également géré la crise de la grippe aviaire et elle lui fait totalement confiance. À l'époque où Santé publique France demande qu'on reconstitue les stocks de masques, Santé publique France demande également qu'on reconstitue les stocks qui concernent tous les risques sanitaires en France. Aussi bien donc les stocks de masques que les antiviraux, les antibiotiques et même les pastilles d'iode qui peuvent servir en cas d'attaque nucléaire. Madame Buzyn dit qu'à l'époque, quand elle souhaite elle aussi que tous ces stocks soient reconstitués, elle n'a pas connaissance de la pandémie et elle ne peut pas flécher les masques plus qu'autre chose. Voilà donc son axe de défense pour l'instant. L'audition va encore durer, Stanislas, pendant une bonne heure.
Tara Schlegel, merci. Nouvelle mobilisation des personnels hospitaliers aujourd'hui, à quelques jours de la clôture du Ségur de la Santé. Plusieurs milliers de personnes ont défilé cet après-midi à Paris pour obtenir davantage que les 6,3 milliards d'euros promis par le gouvernement. Rassemblement aussi en région, avec au moins 1600 manifestants à Nantes, 1200 à Lyon et un millier environ à Montpellier. Mais les cortèges étaient moins fournis que le 16 juin dernier, où la première première journée de mobilisation des soignants avait rassemblé entre 100 000 et 180 000 personnes. Ça. La chute du transport aérien oblige Airbus à réduire ses effectifs. Le géant aéronautique devrait confirmer d'ici ce soir la suppression de 15 000 emplois, dont 5 000 en France. Cela représente 10% des effectifs français. La direction présente en ce moment le détail de son plan de restructuration au syndicat. On retrouve à Blagnac, près de Toulouse, au siège d'Airbus, Stéphanie Glésis.
5 000 emplois supprimés en France chez Airbus, ça représente environ 10% de l'effectif. Guillaume Faury, le PDG d'Airbus, n'avait d'ailleurs pas caché la semaine dernière que des mesures importantes d'économie se préparaient. Il a notamment écrit aux salariés « Nos coûts continuent de dépasser largement nos revenus, ce n'est pas tenable ». La direction d'Airbus explique notamment que la branche aviation, qui assure 77% des revenus du groupe, s'effondre. Il faut évidemment reconfigurer l'entreprise. Les cadences de production ont déjà baissé de 40% et l'appel aux sous-traitants de plus de 50%. Le PDG d'Airbus avait d'ailleurs invité les salariés et leurs syndicats à faire preuve, je cite, de créativité. Guillaume Faury, le PDG d'Airbus, a d'ailleurs annoncé des décisions amères. Force ouvrière, le syndicat majoritaire, compte s'appuyer sur trois pistes pour limiter la casse sociale. Le dispositif gouvernemental de chômage partiel de longue durée qui est à venir, du temps partiel choisi, mais un peu imposé quand même par la force des choses, pour ceux qui approchent de l'âge de la retraite, des départs volontaires, là aussi encouragés financièrement, et enfin le non-remplacement temporaire de ceux qui partent à la retraite naturellement. Force ouvrière souligne que la crise sera passagère, avec une reprise possible dès 2023, la direction d'Airbus tablant plutôt sur 2025 pour retrouver le niveau de commande de l'an dernier. Ces chiffres devraient être affinés jeudi en comité de groupe Airbus France, toujours à Toulouse.
Stéphanie Glésis depuis le siège d'Airbus à Blagnac. Cette crise du transport aérien concerne aussi les compagnies. Selon des sources syndicales, le groupe Air France va annoncer vendredi plus de 7500 suppressions de postes d'ici fin 2022. Dans le détail, la compagnie Air France perdra 6560 emplois et la compagnie régionale Hop devrait en perdre plus d'un millier. La crise économique provoquée par la pandémie a plongé, on le sait, la France dans la récession. Le PIB devrait reculer de 11% cette année, selon les dernières prévisions. Et la dette publique pourrait, elle, atteindre les 121% du produit intérieur brut. Dans son rapport annuel présenté ce matin, la Cour des comptes appelle le gouvernement à maîtriser cette dette publique. Pour autant, Annabelle Grelier, la Cour ne préconise pas l'austérité budgétaire.
La Cour préconise le sérieux, la prévisibilité, en aucun cas l'austérité, a bien insisté son président Pierre Moscovici. L'institution appelle surtout le gouvernement à définir une trajectoire de désendettement dans la future loi de programmation des finances publiques, au plus tard, au printemps prochain. Alors que le gouvernement compte sur le rebond de la croissance l'an prochain pour réduire la dette et exclut toute hausse d'impôts, la Cour juge, elle, que sans action de redressement, le déficit risque d'être durablement élevé. Il ne faut pas tout attendre de la croissance, avertit Pierre Moscovici, car même le scénario le plus optimiste d'une reprise rapide ne permettra pas à la France de retrouver son niveau d'endettement d'avant-crise avant 2030. Un niveau autour des 100% du PIB qui était déjà jugé préoccupant pour la Cour des comptes comparé à d'autres pays européens. Ce n'est pas le moment toutefois de faire du sadomasochisme, mais la France va devoir se préoccuper sérieusement de sa dette publique, estiment les sages de la rue Cambon, qui s'inquiètent de sa soutenabilité en cas de remontée des taux d'intérêt. Pour y parvenir, pas d'austérité, pas d'effort brutal, mais de la constance dans la maîtrise des dépenses publiques. La Cour des comptes conseille d'ailleurs au gouvernement de privilégier les dépenses d'investissement et concernant de nouvelles baisses d'impôts pour les entreprises prévues dans son plan de relance, elle les conditionne à des hausses d'autres prélèvements ou de suppression de niches fiscales.
Annabelle Grelier, merci. Fessenheim n'est plus la doyenne des centrales nucléaires françaises en activité. Après 43 ans de bons et loyaux services, la centrale alsacienne a été débranchée hier soir du réseau EDF. Il s'agissait d'une vieille promesse du président Hollande, reprise à son compte par Emmanuel Macron. Mais la fin de Fessenheim divise la classe politique. Anne Fauquemberg, bonsoir. Anne Fauquemberg, êtes-vous avec nous ?
Oui, bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Anne, si les écologistes applaudissent à la fermeture de Fessenheim, à droite mais aussi à gauche, beaucoup sont ceux qui dénoncent un véritable gâchis industriel.
Oui, le premier à avoir dégainé, c'est Fabien Roussel pour le Parti communiste. La nuit dernière, juste après l'arrêt de la centrale de Fessenheim, il fait un tweet pour dénoncer cette décision, symbole du quinquennat Hollande. Et voici ses arguments.
Si on veut atteindre nos objectifs en termes de limitation de gaz à effet de serre, d'émissions de CO2 notamment, pour avoir une empreinte nulle en matière de carbone d'ici 2050, il va falloir produire des efforts et pas des moindres. Or, pour cela, nous avons besoin aujourd'hui de l'énergie nucléaire, qui est une énergie qui est 100% décarbonée. C'est une production d'électricité pas chère pour nos concitoyens, mais qui, en plus, n'émet pas de CO2.
Fabien Roussel, qui se situe aussi dans une perspective de réindustrialisation de la France, il estime que sinon le pays va être obligé d'importer de l'électricité d'Allemagne et il n'est pas le seul à partager ce constat. À droite, le député LR Éric Woerth voit aussi le nucléaire comme fondamental car c'est une énergie décarbonée. Enfin, au Rassemblement national, Marine Le Pen a des mots durs. Pour elle, c'est un crime contre une filière d'excellence française, une atteinte à notre souveraineté, une marque de mépris pour l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, un coup porté à l'emploi. En un mot, un désastre, a-t-elle écrit sur Twitter.
Anne Fauquemberg sur la fermeture de la centrale de Fessenheim, merci. Preuve que la Covid-19 continue à se propager en Europe, les autorités britanniques ont ordonné le reconfinement de la ville de Leicester. Dans cette métropole de 340 000 habitants, on a dénombré près d'un millier de nouveaux cas ces 15 derniers jours. Cela représentait la semaine dernière environ 10% des nouvelles contaminations au Royaume-Uni. Le reconfinement, cela signifie la fermeture des commerces non essentiels. Le reportage à Leicester dans un centre de dépistage de notre envoyé spécial Antoine Gignot.
Dans la file d'attente, Ashraf, 52 ans, attend son tour, un masque sur le visage, des gants en caoutchouc sur les mains et un peu d'inquiétude dans la voix. J'ai commencé à avoir des symptômes de la toux il y a quelques jours, dit-il. Et comme la situation empire à Leicester, je l'ai vu aux informations, j'ai décidé de venir me faire tester parce que je m'inquiète pour ma famille. Je ne veux pas contaminer tout le monde. La contamination rapide des habitants de la ville, c'est ce que craint Wendy. Elle est infirmière à l'hôpital général de Leicester et elle est en colère. Il y a trop de gens qui se rassemblent, dit-elle, et qui n'écoutent pas le gouvernement. Ils vont dans le centre-ville, ils font leurs courses et ils se regroupent tous autour de la tour de l'horloge pour manifester. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais personne n'écoute. Et maintenant, Leicester est confiné pour 2 semaines, peut-être plus. Les gens vont voyager ce week-end et il y aura plus de malades et plus de gens qui vont mourir. Ça va empirer. Le maire de la ville, Peter Soulsby, lui, essaie de rester pragmatique. Sa priorité, c'est d'identifier les foyers principaux. Il surveille de près plusieurs usines agroalimentaires, notamment dans le nord de la ville. Il demande au gouvernement de multiplier les tests et de centraliser les données. On a beaucoup de mal à récolter les informations pour savoir où les gens ont été testés positifs. C'est très difficile de savoir si les gens arrivent à l'usine en étant malades ou s'ils sont contaminés dans les ateliers. Peut-être que si on arrive à analyser ça plus précisément, on pourra répondre à la question. En attendant, tous les magasins, sauf ceux qui vendent des produits de première nécessité, ferment leurs portes ce soir. La quasi-totalité des écoles qui avaient rouvert renvoie à partir de jeudi les enfants chez eux.
Antoine Gignot depuis Leicester dans le centre de l'Angleterre, avec plus de 43 000 morts, le Royaume-Uni est le pays européen le plus endeuillé par la pandémie. Le rebond épidémique au Royaume-Uni ne remet pas en cause pour l'instant le déconfinement de l'Union européenne. Après les frontières internes, ce sont les frontières externes de l'UE qui vont se rouvrir à partir de minuit ce soir. Une réouverture limitée pour l'instant à une quinzaine de pays. À noter que les États-Unis ne figurent pas dans la liste européenne. C'est une nouvelle affaire embarrassante pour Donald Trump. Le président américain était-il au courant du rapport des services de renseignement sur les prix russe en Afghanistan? Moscou est soupçonné d'avoir payé des talibans pour tuer des soldats occidentaux déployés sur le sol afghan. C'est en tout cas ce qu'affirme le New York Times, citant des sources sécuritaires américaines. Christian Chéneau.
Les relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine sont une nouvelle fois au cœur de graves soupçons de la presse américaine et du Congrès. Le locataire de la Maison-Blanche a-t-il minimisé, voire ignoré un rapport des services secrets laissant entendre que Moscou aurait pu verser de l'argent aux talibans pour tuer des soldats américains en Afghanistan? Le New York Times, citant des sources sécuritaires, affirme que Donald Trump a bien reçu une synthèse écrite des services de renseignement fin février sur ce dossier sensible. Des informations troublantes ont été recueillies sur le terrain après la mort de 3 soldats américains dans une explosion près de la base de Bagram, notamment sur le financement de l'attentat. « Personne ne m'a informé ou ne m'a rien dit », a tweeté le président américain, un démenti qui a fait bondir Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Elle réclame que les parlementaires connaissent la vérité car selon elle, Donald Trump souhaite ne pas faire de vagues pour ne pas froisser Vladimir Poutine.
Christian Chéneau, merci. On termine ce journal avec la météo. Demain, pluvieuse et orageuse sur les trois quarts du pays. Seules les régions méditerranéennes devraient être épargnées. Les températures minimales seront comprises entre 12 et 22 degrés du nord au sud. Les maximales évolueront entre 19 et 32 degrés. C'est la fin de cette édition préparée ce soir avec Jean-François Braun. We'll be right back.